à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nouvelle semaine, nouveau défi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Et j'espère que vous allez très bien depuis chez vous. Et nous sommes au lundi 17 juin 2024. Et il sont 11h passées de 2 minutes sur votre radio. Et merci alors de nous choisir pour ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi d'ATV est revenu alors de son congé et il assure ce matin la mise en onde alors de cette émission. Jérôme Dakouta assure bien sûr la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et vous comprenez sans doute que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Uriel Enyang est là. Bonjour Uriel.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à tous les Togolais de par le monde. Un spécial bonjour à tous ceux qui ont vécu le drame à l'entrée d'Atapame.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Week-end bien passé, mais comme tu le sais, nous bouclons le dimanche soir. Donc, c'est pas si facile que ça pour tous les médias, toutes les sociétés de presse qui bouclent le dimanche soir. C'est pas aussi facile parce que nous n'avons pas vraiment de week-end. Nous travaillons. Nous sommes toujours au service de la population. Si vous le reconnaissez, c'est tant mieux.
D'accord. Le président aussi est là. Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne chance à nos enfants, à nos petits frères, à nos sœurs qui vont passer le bac. Et hier, on a eu les résultats du bac 1. Et dans les familles, c'était la joie.
Hier dimanche.
Oui, oui, hier dimanche.
Avec Cisco. Bon, je crois que dans d'autres familles aussi, c'était quand même les lamentations. Mais le plus important, et félicitations à tous ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. C'est pas la fin du monde. Hein. Je connais un ami qui a passé plus de 5 fois le bac avant d'avoir. Donc, c'est pour vous dire que la vie, c'est un chemin souvent rocailleux.
Ça donne vraiment du courage, Jacques. Voilà. Mais 5 fois passer le bac, 5 fois, c'est...
Ah oui, c'est pas facile. Oui, il faut vraiment persévérer. Mmh. Souhaiter prompte guérison à tous ceux qui sont malades, qui sont en train de nous écouter actuellement. Mmh. Et ceux qui sont dans leur bureau, dans leur entreprise, qui nous écoutent, nous les saluons. Saluer également nos frères musulmans qui ont fêté hier la Tabaski. Un coucou spécial à tous ceux qui nous ont invités hier. Je ne voudrais pas trop donner la liste ici.
Non, ne donnez pas la liste.
Tu as mangé avec eux, c'est l'essentiel.
Merci beaucoup, Jacques, d'avoir répondu à notre invitation. Le fils de Couvé aussi est là ce matin. J'espère qu'il a bien passé aussi le week-end. Didier Soba, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Le week-end, c'est comme toujours d'habitude. Et donc, le travail, la prière et puis la maison. Donc, ça a été toujours la même chose. Dieu merci. On se porte bien.
L'essentiel, on le remercie. C'est ça. On remercie le Seigneur pour le souffle de vie hein, et cette grâce qui nous a donné.
C'est, sans cela, on ne peut pas être ici aujourd'hui pour animer de l'émission. Mm. On ne peut pas être là derrière les, enfin, à côté des postes récepteurs pour écouter l'émission. Donc, toujours reconnaissance au très haut pour le souffle de vie qu'il nous a accordé.
Effectivement, reconnaissance et gratitude à l'Éternel des armées, alors pour le souffle de vie qu'il nous accorde aussi à tout instant. Et nous demandons qu'il continue alors de nous accorder ce souffle de vie.
Amen.
Pour continuer aussi l'émission comme cela se doit. Puisqu'il y a toujours nos auditeurs aussi qui sont à l'écoute lors de cette émission. Déjà à partir de midi, nous rappelons tout simplement qu'ils peuvent rentrer en contact avec nous à travers nos deux numéros, les 22 21 33 114 et le 91 36 63 75 pour participer au débat lors de ce matin. Uriel, c'est vrai, c'est comme si vous étiez alors sur ma liste, où vous avez jeté un regard sur ma liste alors de sujet ce matin, mais nous démarrons ce sujet, enfin cette émission avec ce drame que nous avons tous ensemble appris déjà le vendredi dernier. Et le vendredi, nous avons appris déjà à l'entrée même d'ailleurs de à Takpamé, il y a eu cet accident de circulation qui a fait pratiquement 9 morts selon le bilan donné même par le ministère de la Sécurité, et il y a 14 autres qui sont blessés. Et il y a le journal Le Correcteur qui est revenu sur le sujet ce matin. Le journal titre à sa une: encore plusieurs vies fauchées à Takpamé. Combien de morts faut-il à nouveau avant le dédoublement de la nationale numéro 1? Alors, déjà, Uriel, vous avez appris cette information, mais nous devons être vraiment sous le choc en écoutant cette information le vendredi.
Oui, Pascal, c'est vrai que je vais répondre en tant que journaliste, mais avant d'y être, ensemble, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées par ce deuil de 9 personnes. Présenter prompte guérison aussi à tous les malades qui sont encore sur les lits des hôpitaux à Takpamé, ou peut-être de certains seraient évacués sur Lomé. Ce n'est que ça l'essentiel, parce que les faits sont déjà accomplis. On ne peut que souhaiter prompt rétablissement aux malades ou aux blessés. Maintenant, sur la situation elle-même, vous savez, la nationale numéro 1, des gens comme moi, nous l'empruntons chaque semaine. Nous empruntons cette route. Et c'est vrai, notre souhait, c'est que la route devienne plus large. Mais en attendant qu'elle ne s'élargisse, il va falloir que nous soyons prudents. Il va falloir que nous soyons prudents. Tout s'est passé comme si, à l'embarquement, les passagers ont demandé au chauffeur, à l'entrée d'Atapamé, il faut nous sacrifier là-bas. Mais c'est tellement triste. C'est tellement triste que, lorsque tu veux effectuer un dépassement, que ce soit face à un engin roulant ou stationné,
c'est la manœuvre la plus compliquée sur la route. Le dépassement. C'est là. Des fois, tu sors un peu la tête, tu vérifies s'il n'y a pas un camion en opposition, tu reviens, tu fais toutes les gymnastiques possibles avant d'effectuer ton dépassement. Mais ça, c'était comme notre journal l'a titré, c'est le pire. Que vous quittiez quelque part pour arriver à un point B et qu'on dise que 9 personnes ont disparu en cours de route. Mais il va falloir que, au volant, les conducteurs pensent vraiment aux vies humaines qu'ils transportent. C'est très important. Lorsque vous êtes à bord de votre voiture, vous transportez des gens. Ce sont des vies humaines. Aujourd'hui, ces gens-là ont disparu. Maintenant, au regard du communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, moi, quelque chose m'a inquiété.
C'est quoi?
On dit qu'il dépassait, le chauffeur, la camionnette effectuait un dépassement d'un Titan qui a stationné, mais avec un triangle de signalisation derrière. Déjà, on signale la régularité du stationnement de ces Titans et on accuse la camionnette, c'est juste. Maintenant, le Titan qui s'est déversé sur cette camionnette, je vous assure que si vous avez l'habitude d'emprunter la nationale numéro 1, mais ces gens-là, on doit chaque matin étudier leur moralité avant de leur permettre de monter à bord de ces camions-là. Même il est en situation d'irrégularité, il fonce sur vous. Vous êtes obligé de basculer dans la bourse, le laisser passer. Même s'il se trouvait en situation d'irrégularité, il va choisir aller foncer sur les vies humaines. Il aurait dû s'arrêter. Même si en s'arrêtant, il insulte le chauffeur qui vient de perdre la vie avec les autres, c'est mieux que de foncer sur eux. Ces gens-là, je les connais sur cette route. Même s'il est en situation d'irrégularité, ils foncent. Maintenant, je me demande que décidera le procureur. Parce que cette affaire, quand ça se passe comme ça, ça finit devant le procureur. Il va parler de quoi? Homicide volontaire ou involontaire? Moi, je dirais même que c'est volontaire. Même si tu as raison, tu sais que si tu y vas, les vies vont se perdre. Tu fais quoi? Tu interroges ta conscience. Je m'arrête pour sauver les vies humaines. Tu ne vas pas foncer parce que l'autre a entamé un dépassement irrégulier. Non.
D'accord.
On sauve les vies et après, bon, on peut se chamailler, on peut s'insulter sur la route, mais on a déjà sauvé les vies. C'est très important. Si on peut avoir des forces spéciales de temps en temps, pour guetter, surtout dans les tournants, ce que les titamans font, mes chers amis, c'est horrible.
C'est horrible. Alors, Jacques, quand on suit vraiment cette situation, on comprend que l'excès de vitesse et aussi le dépassement dangereux en sont quand même pour les causes hein, de cette situation, de cet accident qui a coûté la vie à 9 personnes.
Vous voulez joindre également ma voix à Uriel pour présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et pour le rétablissement également à ceux qui sont actuellement dans ces hôpitaux blessés. Et il faut reconnaître que, Pascal, il y a 3 aspects qu'il faut retenir sur ces accidents, sur la nationale numéro 1. Le premier aspect, c'est que c'est le non-respect du code de la route. Les gens ne respectent pas le code de la route. Et l'autre aspect, c'est que le Togolais conduit très mal. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Le Togolais conduit très mal. Vous allez voir, par exemple, un passager qui est au bord de la route, qui veut, par exemple, traverser une route. La personne est déjà au milieu de la route. Vous voyez un chauffeur qui klaxonne encore pour dire, par exemple, à ce passager-là de courir vite pour traverser la route. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Du moins, vous voyez un passager qui est au milieu de la route, mais laissez le temps à ce passager-là de partir. Vous n'avez plus besoin de klaxonner. J'ai assisté à un accident comme ça où ils ont tué le monsieur. Parce que quand il a klaxonné, le monsieur a eu peur. Et comme il filait, finalement, il a conduit le monsieur, il l'a tué. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que quelque part, je ne sais pas quel est notre problème. Le Togolais va où? Où est-ce que nous allons? Et regardez l'état même de nos routes. Quelqu'un qui veut sortir, par exemple, dans un corner, je vous dis, Pascal, si vous voyez comment la personne file, vous vous posez des questions. Vous allez où? Si tu es pressé, là où tu vas arriver. Si tu n'es pas pressé, le point B, tu vas l'atteindre.
Donc on disait même d'ailleurs que nous roulons comme si nous avons la photocopie de notre vie à la maison.
Franchement, le Togolais, je ne comprends pas. Il faudrait qu'on puisse revoir cet aspect. Et inviter par exemple le ministère des Transports. Il faut établir le permis à point dans ce pays pour vraiment dissuader ces personnes-là. Parce que s'il y a un permis à point où on enlève les points, tu es obligé encore de repasser le permis, les gens seront conscients. Et le second aspect, Uriel a parlé tout à l'heure des états membres. Prenez la nationale numéro 1. C'est là que vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire que les gens consomment la drogue. Les gens prennent tramadol. C'est-à-dire quand ils conduisent, eux, c'est comme leur titan là, roule en l'air. Hein. C'est comme un avion. C'est-à-dire qu'ils ne roulent pas sur les routes. Non. Pour eux, c'est ça. Et j'ai allé, par exemple, moi, un jour, je voyageais sur Dapaon. Je me suis arrêté dans un coin là. Je ne vais pas donner le nom. Les autorités connaissent bien le coin en question. Quand vous allez là-bas, je vous dis, Pascal, il faut être courageux pour pouvoir respirer là-bas. C'est-à-dire que les gens, si vous voyez ce qu'ils tirent là-bas, ce qu'ils boivent avant de reprendre ces titans-là, vous vous posez des questions. Et puis, si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez même pas vous arrêter là-bas. Moi, j'avais fait semblant de faire quelque chose, mais j'ai dû en même temps déchanter pour partir, parce que vous ne pouvez pas. Donc, il faudrait que les autorités prennent également la mesure de la chose pour pouvoir enquêter qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et lorsqu'ils prennent le volant, je vous dis, mais c'est pas possible. Voyager sur la route de la numéro 1 de Lomé jusqu'à Saint-Cancé, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Tout le temps, les gens meurent là-bas. C'est pour vous dire qu'il faudrait que les autorités puissent revoir encore le cas effectivement de cet itaman. C'est vrai, Uriel disait tout à l'heure que pour le moment, il n'y a pas les moyens pour pouvoir dédoubler la nationale numéro 1. Il faudrait que les gens soient imprudents. Ils sont prudents effectivement sur ces routes-là. Et l'autre aspect, pour m'arrêter sur effectivement les causes des accidents, c'est vrai qu'entre-temps, nous avons assisté à un séminaire avec le ministère des Travaux publics et le ministère des Transports. Le ministre, M. Achad Didier, était là, Madame
Kassa Traoré.
Ils étaient tous là. Ils avaient parlé des mesures qu'il fallait prendre pour permettre effectivement à cet itaman-là de ne pas rouler effectivement à des heures sur cette nationale. Mais ce que nous constatons, rien n'est fait. Rien n'est jusqu'à fait. Et moi, je voudrais demander aux autorités, là où l'accident a eu lieu à Tapamé, si on peut, par exemple, délocaliser ce marché-là, ça peut aider les populations. Parce que ce que nous constatons, c'est quoi? Arrivé à ce niveau, les gens veulent acheter la banane.
Vous voulez parler du marché d'Agbo?
Oui, les gens veulent acheter la banane. Les gens veulent acheter ci et ça. Et finalement, quand vous voyez l'encombrement à ce niveau-là, ça crée effectivement les accidents. Parce que la route est tellement est petite là-bas, si bien que... Et quand vous prenez, par exemple, ceux qui quittent, par exemple, Sada, pour tourner, pour venir vers Lomé, si vous voyez les manœuvres là-bas, c'est encore un problème.
Demandons, et souvent, il y a des véhicules même d'ailleurs qui sont stationnés.
Oui, là-bas. Donc, moi, je voudrais demander au ministre des Travaux publics, pour le moment, même si l'État n'a pas les moyens, essayez quand même de revoir le petit ponceau là. Quand on quitte Sada pour revenir, pour se rabattre, pour aller vers Lomé, que le gouvernement puisse revoir quand même cette situation à ce niveau. C'est vrai qu'ils ont mis les feux rouges là-bas.
Non, ça ne fonctionne
pas. Mais les feux
rouges,
ça ne fonctionne pas du tout. Non, franchement, il faudrait que le gouvernement puisse prendre la mesure des choses. C'est vrai qu'on dit que les chauffeurs ne respectent pas, ils conduisent très mal, mais la responsabilité également incombe à nos autorités. Il faudrait que nos autorités frappent également le poing sur la table. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que les gens conduisent mal. Bon, il faut les laisser conduire et les gens meurent. Quand vous allez... Il y a certains qui vont, Pascal, à la visite technique. Vous savez ce qu'ils font? Vous regardez un peu les pneus de ces véhicules-là. C'est des pneus usés. Mais quand ils veulent partir pour la visite technique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont emprunter les pneus chez les mécaniciens, là. Ils mettent sur leur véhicule, ils vont faire la visite. Après, quand ils retournent, ils enlèvent les pneus là au niveau des garages.
Ça, c'est un autre grand sujet.
Enfin, donc,
c'est un autre sujet.
Oui, donc, c'est pour vous dire que quelque part, il faudrait que l'État puisse sévir au niveau, effectivement. Vous ne pouvez pas quitter votre maison. Que vous quittez un point A pour aller à un coin B, et d'un seul coup, un chauffard vienne également faucher votre vie comme ça. Donc, quoique les responsabilités sont partagées, la responsabilité d'abord au niveau, effectivement, de ces syndicats, et la responsabilité également des chauffeurs et de l'État.
D'accord. Didier, C'est vrai que quand on prend ces situations, souvent, tel que Jacques l'a dit, les responsabilités sont souvent partagées. Quand on prend au niveau des chauffeurs, même d'ailleurs au niveau de l'usager de la route que nous sommes, on ne peut pas conduire comme si, allez, nous avons les pièces alors à acheter ou les pièces de notre organe, même d'ailleurs, à acheter plus tard quelque part.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mes condoléances aux familles attristées et mes compassions aux blessés aussi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et il faut peut-être... C'est vrai que ce n'est pas possible d'expliquer un accident. On va essayer de trouver les torts et essayer de replacer les choses dans leur contexte. Mais ça va être compliqué d'expliquer un accident. Un accident, ça reste ce qu'on appelle un accident. Mmh. Un accident ne s'explique pas. Néanmoins, si des choses relèvent de notre responsabilité et de notre possibilité pour qu'on évite au maximum des risques qui pourraient donner sur des accidents, je pense fondamentalement qu'il faut naturellement travailler à minimiser les risques. Un peu comme Wirel le dit et les uns les autres, faire beaucoup plus preuve de la prudence. Moi, à chaque fois que j'emprunte la nationale numéro 1, c'est en mode prière. Parce que cette route-là est la route la plus dangereuse du Togo. La plus meurtrière possible. Très dangereuse. Comme il le dit, vous voyez comment les titamans conduisent sur cette voie-là. Mais on dirait qu'ils sont en terrain conquis. C'est une voie naturellement en aller-retour. Même peu importe sa largeur, c'est quand même en aller-retour jusqu'à nouvel ordre. Mais ces messieurs conduisent comme si c'était une voie à sens unique. Et ils font ce qu'ils veulent. Et donc, à partir de ce moment-là, les risques d'accident sont grands. Et quand vous parlez d'Atapame, c'est pas la peine carrément. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme, comme Jacques le disait, qu'on puisse trouver un mécanisme soit pour les arrêts ou les stationnements au niveau d'Atapame, puisque quand on fait le voyage, en aller comme au retour la plupart des fois, c'est à Tapame la vie où les gens stationnent le plus, où on s'arrête soit pour manger, soit pour en aller comme au retour ou acheter les choses. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme? On parlait là de dédoublement. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme là d'imaginer une autre voie, bon, en aller en passant du côté, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, et une autre voie au retour en passant par Atapame? C'est des idées dans le sens de dédoublement ou de contournement d'un certain nombre de villes sur la trajectoire là-bas, pour éviter justement à ce que les gens qui vont stationnent sur la voie et les gens qui reviennent également stationnent sur la voie, et finalement il n'y a plus de voie pour ceux qui passent. Et quand il n'y a plus de voie pour ceux qui passent, entre les commerçants, entre les stationnements, entre les passants, entre le trafic, vous imaginez que le risque là-bas, au niveau d'Atapame, est un risque très grand pour des accidents qui peuvent arriver à tout moment. Et donc, oui, je suis d'accord qu'il faut faire preuve de la prudence, mais je pense également que de notre responsabilité étatique également, on pourra mettre des choses en branle pour minimiser le risque sur la route. Une route, dès lors qu'elle est extrêmement exiguë, elle est déjà elle-même risque, porte même elle-même déjà un grand risque d'accident. Après, le comportement des usagers également vient s'ajouter et le risque s'agrandit. Donc, je suis d'accord qu'il faut faire preuve de prudence, mais autant de prudence ne va pas disculper l'État ou, on va dire, soustraire à l'État sa responsabilité.
Dédouaner l'État.
Oui, de dédouaner l'État, de faire face à sa responsabilité, de mettre les citoyens dans de bonnes conditions sécuritaires au niveau de la route.
D'accord. C'est vrai que quand on suit vraiment cette situation, on voit même d'ailleurs que des fois, hein, sur nos routes, il y a des policiers qui sont là, et sur la nationale numéro 1 même d'ailleurs, vous verrez alors des policiers. Mais finalement, c'est comme si, déjà, pour ce qui concerne même d'ailleurs le rôle, ou du moins c'est ce qu'ils doivent faire, il n'y a pas d'intransigeance en tant que tel.
Non, et à ce sujet, est-ce que c'est des policiers nous retrouvant actuellement sur la nationale? C'est la DSR. La DSR, ils sont dans leur rôle, ils te réclament les quatre pièces fondamentales pour voir si ton permis est en situation régulière, ta carte grise est en situation régulière, ta visite technique en situation régulière, ton assurance en situation régulière. Et ils font si bien leur boulot. On peut t'arrêter jusqu'à 5 fois d'ici Cara. C'est sur quoi je voulais revenir rapidement. Vous savez, ce qui a été malheureux, cet accident, là où il s'est produit, avoir le sens du véhicule qui a été endommagé, il était à peine à 5 km d'entamer la bonne route. Parce que quand vous sortez d'Atapame, vous entamez la bonne route jusqu'à Aouda. Donc là, il y aurait moins de risques que ce qu'il a vécu. Mais aujourd'hui, ce que nous devons nous mettre en tête quand nous montons à bord de nos voitures, la loi a prévu une chose. Quand il y a perte en vie humaine, bon, le responsable, on sait ce qui lui revient comme charge, il va contribuer aux obsèques et tout ça, la loi l'a prévu. Mais la loi n'a pas malheureusement prévu que celui qui est décédé soit ressuscité. Donc on doit se le mettre fondamentalement en tête, c'est très important. Et puis, une chose aussi, si l'État pouvait faire à telle enseigne, en attendant qu'il y ait les moyens de dédoubler, d'élargir ou bien de reconstruire la nationale, multiplier les aires de stationnement. Là où ces camions étaient stationnés, c'est même le premier responsable de cet accident, le camion qui était en stationnement. S'il y avait une aire de stationnement où il stationnerait en dehors de la route. Donc, ça éviterait même ces dépassements défectueux qui est à l'origine de l'accident. Donc, c'est très important. Actuellement, lorsque vous entamez la nationale, c'est très important aussi de le savoir. Les parties les plus dangereuses, de Thévié à Agbélové, là, il faut vraiment rouler en tant que professionnel. Ça, c'est complètement défectueux. Quand vous dépassez là-bas, vous arrivez à Tapame, au moins, il faut rendre grâce à Dieu, continuer jusqu'à Aouda. À partir de Aouda jusqu'à Sokodé, la route aussi n'est pas bonne. De Sokodé jusqu'à Kara aussi, il faut faire extrêmement attention. Ce n'est qu'à partir de à la sortie de Kanté que vous prenez la bonne route jusqu'à la frontière Burkina. Donc tout ça, les chauffeurs le savent. Ils savent où je dois rouler, où je dois vraiment aller à la vitesse de caméléon. Où est-ce que je dois faire ceci, où est-ce que je ne dois pas faire cela.
D'accord. Jacques, c'est vrai que nous avons encore en mémoire l'accident de Talo qui s'est passé, je me rappelle plus trop, je pense que c'est en 2014, non, de Talo. Et il y a aussi, en début d'année, l'accident également de Azamou qui s'est produit tout récemment. Il y a des dispositions qui ont été prises.
Il y a Wahala.
Il y a Wahala aussi, bien sûr, des dispositions qui ont été prises alors par l'État, mais les usagers de la route ne respectent pas ces dispositions. Mais allez, l'État laisse fait.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Je disais tout à l'heure que la responsabilité est partagée entre nous et l'État. A dit que pour faire respecter, par exemple, une disposition, Pascal, c'est pas toi ni moi, c'est l'État qui doit faire respecter effectivement l'application et la décision qui a été prise. Et l'autre aspect sur ces accidents, souvent, quand vous vérifiez, la plupart de ces patrons, vous savez ce qu'ils font? Lorsqu'ils, par exemple, ils sortent de Thévié, ils remettent, par exemple, le volant à l'apprenti.
Oui.
C'est ce qu'ils font. C'est l'apprenti qui prend le volant. Et vous voyez un titan, un apprenti qui ne maîtrise pas, par exemple, le volant. L'apprenti là, qui prend le volant, mais qu'est-ce que vous voulez que l'apprenti la fasse? L'apprenti va faire des accidents.
Et des fois, les apprentis sont des mineurs.
Oui, justement, des mineurs, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait que l'État fasse encore plus de rigueur, plus de contrôle. Je l'ai dit, on a assisté à un séminaire, je vous l'ai dit ici, dans la salle, on sait ce qu'on a dit à ce ministre qui était là. C'est-à-dire que nous pratiquons cette voie tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient nous le dire. Ça, c'est chez nous, parce qu'on va là-bas tout le temps. On voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne parle pas comme quelqu'un qui veut se convertir. Nous sommes déjà convertis. Quelqu'un qui est converti, tu ne peux plus le prêcher. C'est-à-dire que quand on parle, il faudrait que, quand on ne parle pas aux autorités, nous savons, c'est-à-dire que nous touchons le concret de cette route-là. On nous a parlé des moyens, que les moyens, on ne dispose pas encore les moyens. Uriel vous a décrit par exemple, quand vous sortez, vous prenez à partir de Thévié jusqu'à Tapame, mais que l'État essaie quand même de boucher cette route-là. Parce que vous ne savez pas faire, vous prenez votre véhicule pour une première fois pour aller à Tapame, vous allez frapper les trous jusqu'à aller à Tapame. Et si vous ne savez pas faire, vous allez abîmer vos pneus. Et c'est ce qui se passe souvent. Les gens qui ne maîtrisent pas cette route-là, c'est là qu'il y a les accidents. Nous demandons tout juste à l'État. Essayez de colmater quand même ces trous-là pour permettre effectivement à nos populations, aux usagers, de pouvoir emprunter cette voie. Vous voyez, quand souvent je parle des routes secondaires, quand vous allez, la route, quand vous prenez par exemple Lomé jusqu'à Thiévier, quand vous prenez par exemple la route de Badou pour remonter vers Bandinkounia et autres, mais ça, là encore, c'est autre chose. Mais quand même, il faudrait que l'État, la nation numéro 1, que l'État fasse tout. Lorsqu'il y a par exemple ces trous-là, qu'on puisse quand même rembler ces trous-là pour permettre effectivement aux populations de pouvoir circuler. Et l'autre aspect, on a parlé également des surcharges. Ça continue. Et puis, si l'État veut remettre encore les policiers là sur les voies, c'est nous qui allons commencer encore par crier que non, ils sont en train de nous escroquer. Mais l'autre aspect, il faudrait que nous, concitoyens et concitoyennes, lorsque nous prenons par exemple le volant, disons-nous que ce volant-là, c'est la vie et la mort. Si on l'utilise bien, c'est la vie. Si on ne l'utilise pas bien, ça va engendrer également la mort. Donc je crois que la responsabilité incombe d'abord à nous, usagers. C'est-à-dire, quand vous prenez votre volant, dites-vous, surtout ceux qui sont en moto, mais vous êtes sur un cercueil roulant. Parce que si vous tombez en même temps, là, vous allez mourir, il n'y a rien à faire. Mais au moins, si c'est la voiture, le choc est quand même moins. Mais si c'est une moto, vous voyez quelqu'un, le feu rouge s'allume, mais ce n'est pas son problème.
Vous n'avez même pas de protection.
On n'a pas de protection, justement. Une personne, elle a traversé le feu rouge. Heureusement, moi, je l'ai posé la question. Je lui ai dit, mon ami, regarde, on dit c'est le rouge là, c'est le danger. Pourquoi toi, tu traverses la voie? Il dit, non, mais que le feu rouge, est-ce que c'est pour le... Que c'est mon problème, que Ford dérange les gens avec tout ça. Là, il dit, mais écoutez, qu'est-ce que Ford vient chercher avec les feux rouges aussi? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, le Togolais, je ne sais pas. Moi, je voudrais lancer effectivement.
Est-ce que ce n'est pas aussi une frustration?
Non, il faudrait. Moi, je crois que les médias, radio, télévision, presse écrite que nous sommes, il faudrait qu'on essaie de revoir encore cette formation civique-là. Si ça peut revenir sur nos médias, revenir dans la presse écrite. C'est-à-dire les B.A.B.A. Hein, les B.A.B.A. comportementales de nos concitoyens, de nos concitoyennes. On ne parle pas d'abord de l'État, hein, c'est-à-dire que nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on parle par exemple du feu rouge, mais c'est important de respecter le feu rouge. Parce que si le rouge s'allume, quelque part le vert est allumé. Toi, tu veux dépasser.
Ça, c'est une agglomération.
Oui, mais tu n'as pas te poigner. Vous voyez, donc je crois qu'il y a des choses quand même. Il faudrait que l'État puisse revoir également ce fonds-là. Par rapport à la formation civique de nos concitoyens et nos concitoyennes à travers les médias. Vous savez, on le faisait avant, mais c'est quelqu'un qui est venu arrêter ça. Mais moi, je crois que
on doit que l'État puisse faire ça. D'accord. Et disais, finalement, justement pour clôturer ce débat, oui, déjà dans le premier semestre, enfin dans chaque semestre, il y a le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile qui nous donne toujours le bilan de la sécurité routière. C'est pour interpeller surtout nous qui sommes usagers alors de la route, mais finalement, c'est comme si ça ne change rien.
Oui, apparemment, ça ne change rien. Ça ne change rien. Et je crois fondamentalement que chacun doit veiller à sa sécurité désormais sur la route. Mais après, on dit chacun veille à sa sécurité sur la route, chacun fait de la prudence. Si moi, je fais de la prudence et que l'autre, à côté de moi, ou derrière moi, ou devant moi, ne fait pas de prudence, le risque est toujours là. Donc... je ne sais pas ce qu'on va faire. J'essaie de réfléchir à la solution qu'on pourrait trouver, et évidemment pour que qu'on ait moins d'accidents sur nos routes. Mais je ne vois pas. Je ne vois véritablement pas. Donc nous allons, comme les uns les autres ont dit, on va continuer à faire dans la sensibilisation. L'État doit pouvoir mettre les moyens pour cela, et à côté de la sensibilisation et au-delà de l'exhortation à ce que les uns et les autres fassent beaucoup plus dans la prudence, que l'État également, comme nous le disons, ne serait-ce que sur les grandes voies, fasse beaucoup d'efforts pour qu'on évite assez de contacts entre les gens, puisque s'il y a beaucoup plus de contacts, il va y avoir beaucoup plus d'accidents. Lorsqu'il y aura moins de contacts, notamment, surtout lors des croisements, et lors des dépassements, parce qu'il y aura assez de place, assez de voies pour chacun, pour passer sur la route et lors des dépassements, nous j'emprunte une voie et l'autre, enfin, lors des croisements également, qu'on évite également les croisements avec le dédoublement dont on parle, je pense qu'on aura moins d'accidents. Mais si on n'a que les voies qu'on a actuellement et qu'on demande aux gens de faire de la prudence, comme Jacques le dit, quelqu'un est animé, il fait de la prudence, il s'arrête au feu rouge, il attend que le vert s'allume et il passe. Pendant que lui est en train de passer, celui pour qui le rouge s'allume, il vient quand même le cogner, lui qui a le vert. Donc à partir de ce moment-là, le problème est toujours là. Donc continuons dans la sensibilisation, exhortation aux uns aux autres pour la prise de conscience et de la prudence dans la circulation, mais beaucoup plus appeler à la responsabilité de l'État. Au-delà des bilans, le bilan que le ministère de la Sécurité et ses collègues, ministère des Travaux Publics et des Transports, ce bilan qu'on fait chaque semestre doit naturellement interpeller l'État lui-même pour voir qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire pour garantir de la sécurité aux citoyens. Et également aux citoyens de dire pourquoi, comment est-ce que nous pourrons nous prendre dans la circulation avec beaucoup plus de prudence pour éviter que ces chiffres ne s'alourdissent.
Voilà que c'est dit, je pense, tel que vous l'avez dit, hein, Didier, il y a la responsabilité qui est partagée et chacun doit vraiment jouer sa part de responsabilité pour que les choses aillent mieux. C'est très important. Alors, nous allons quitter le sujet. Uriel, nous parlons d'un autre sujet que vous avez traité ou vous avez évoqué à la une de votre journal ce matin. C'est le sujet alors de la filière coton. Nous en parlions la semaine dernière, bien sûr, par rapport à ce grogne qui a lieu dans le secteur alors du coton. Et il y a même d'ailleurs les cotonculteurs qui ont demandé que Olam quitte alors le Togo parce que il y a une mauvaise gestion surtout alors de ce secteur. Et vous revenez sur le sujet ce matin et vous écrivez: filière coton, le chef de l'État rassure, instruit et met fin aux différends entre acteurs. Donc finalement il y a une solution qui a été trouvée, Uriel.
Oui, il y a une solution qui a été trouvée, une solution d'ailleurs efficace grâce à l'intervention du chef de l'État comme nous l'avons écrit. Vous savez, ces derniers temps, entre la Fédération nationale du groupement des producteurs de coton et le groupe Olam, ça n'a pas été un bon climat. Ça n'a pas été du tout un bon climat parce que le groupe Olam c'est accaparé de tout et laissant pour compte cette fédération qui collabore et qui entretenait très bien les producteurs de coton. Bon, ils ont réclamé le départ de l'AM, mais je pense que les choses ont tourné autrement et ce n'est que pour la bonne cause. Ils ont quand même obtenu quelques satisfactions, trois satisfactions même qui peuvent équivaloir.
Trois sur les treize,
mais les trois sont des majeurs. Les trois sont des majeurs parce que quand vous produisez le coton, la première des choses que vous attendez, c'est le prix. Le prix au kilo. À combien l'acheteur viendra prendre votre kilo. Donc le premier choix reviendra à 300 francs et le deuxième à 280 francs. Donc puisqu'on leur avait dit que ce prix ne serait pas ainsi qu'il sera réduit. Donc, les producteurs s'inquiétaient tellement si, au-delà du fait que les autres pensaient que 300 francs n'était pas encore un bon prix, on va les réduire encore. Qu'est-ce que c'est? Le prix aussi des intrants va demeurer comme celui des années dernières. Et puis, la dernière décision, c'est qu'il y aura un comité tripartite qui sera composé du ministère, de Olam et de cette fédération pour continuer les discussions, les échanges, en vue de trouver un palliatif sur les points restants. Je pense que c'est une très bonne chose lorsque il y a une crise et le premier responsable s'y met et il dit s'il vous plaît faites ceci, c'est mieux pour l'intérêt de la population, parce qu'aujourd'hui si la production du coton tombe en faillite, une partie de notre économie sera aussi touchée. Donc il va falloir que ces secteurs soient en bonne santé pour contribuer aussi tel qu'il pourra dans le développement économique du pays. Donc, eux-mêmes, ils ont salué l'intervention du chef de l'État lors d'une conférence de presse organisée le samedi. Ils ont salué vraiment le ministère en charge de l'agriculture pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont renoncé. Je parle de la fédération du groupement des producteurs de coton. Donc, renoncer à la chasse de Olam telle qu'il avait prévu. Ils vont collaborer ensemble. Très bientôt, ils vont entamer même des campagne de sensibilisation à l'endroit des producteurs, d'accord, ensemble avec Olam.
D'accord. Voilà. Jacques, déjà le chef de l'État est intervenu alors dans cette crise et finalement la solution est trouvée. Et on aurait voulu quand même que le chef de l'État intervienne pratiquement dans les secteurs, dans chaque secteur où il y a crise.
Non, je suis d'accord avec vous parce que vous savez, et puis c'est quand même un peu dommage que, qu'on dise qu'il y a un ministère de l'agriculture et qu'il faudrait que le chef de l'État intervienne. Finalement, quel est le rôle du ministre alors? Si le ministre ne peut pas régler, par exemple, un petit problème comme ça, il faille que le chef de l'État intervienne encore pour que le problème soit réglé. Mais il y a un problème. Je ne sais pas si c'est à cause de leur démission ou bien c'est quoi, mais non. Quand ils démissionnent même...
Mais c'est un grand problème, hein? C'est pas un petit problème.
Non, ça c'est un petit problème.
Les acteurs diront que c'est un grand problème.
Ce que je voulais dire, quand je parle de petit problème... Ça, c'est la responsabilité du ministre. Si le ministre avait rencontré le contocuteur et ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, là, on peut maintenant se référer au président de la République pour intervenir, pour régler le problème. Mais jusque-là, on n'a pas entendu le ministre. C'est parce que finalement, les contocuteurs ont haussé le ton pour demander le départ de Olam que finalement, il y a eu ce règlement. Vous vous rappelez, dans ce studio, je l'avais dit le lundi passé. Il dit, mais dans tout ce bruit-là, le ministre est où? Le ministre de l'Agriculture, il est où? Pour que les contocuteurs crient et finalement on n'entende rien. Et c'est finalement dans la semaine qu'on a appris que le ministre s'est investi à régler effectivement le problème. Je crois que, vous savez, le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère vraiment clé. Et il ne faudrait pas vraiment négliger ce ministère. C'est-à-dire que quand, que ce soit les cultivateurs, le cotonculteur, et presque tous ces aspects-là, si les gens se plaignent, il faut régler rapidement ce problème. Parce que sans, effectivement, ces cotonculteurs, sans ces agriculteurs, on n'aura pas le maïs, on n'aura pas la tomate, on n'aura rien. Donc c'est un secteur vraiment qu'il faut prendre, lorsqu'ils ont des problèmes, il faut les régler. Parce qu'ils ne demandent même pas beaucoup. C'est les intrants, l'engrais. C'est ce que, effectivement, les gens demandent. Donc, je crois qu'il faudrait que ce ministère-là soit à l'écoute, hein, à l'écoute, effectivement, de ces cultivateurs et autres. Mais ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté la fois passée, il faut reconnaître. C'est vrai que les cotonculteurs, ils ont tambouriné, ils ont eu gain de cause, mais attention, ça, c'est un règlement peut-être partiel des choses. Ça peut encore se compliquer demain. Si, par exemple, Olam dit non, j'ai pris effectivement la mesure des choses, mais je n'arrive pas à honorer mes engagements, vous allez faire quoi? Donc, c'est au contocuteur de savoir comment faire. Dans cette affaire, il ne faut pas dormir les deux yeux fermés. Il faut toujours avoir un œil par rapport aux accords signés
et l'autre fermé.
Et par rapport à ce qu'Olam a pris comme engagement. Parce que s'ils veulent fermer les deux yeux pour dormir, mais ils auront les deux yeux là pour pleurer après.
Et il est très important de veiller aussi sur l'application de ces engagements.
Là, bien sûr, mais c'est les deux parties. C'est surtout aux contoculteurs. Parce qu'Olam a pris les engagements. Vous vous rappelez dans ce pays où on nous disait que les engagements ne font quoi? Les accords n'engagent que voilà. Donc les signataires. Non, c'est demain, Olam vous dira que non, mais écoutez, c'est le ministre de l'Agriculture qui a pris la décision et moi j'ai signé, mais je ne peux plus revenir encore en arrière. Les contocuteurs vont faire quoi? Donc pourquoi j'ai dit, il faudrait que les contocuteurs veillent par rapport à ces accords, parce que ce qu'ils réclament, ce n'est pas grand chose. Prendre le à 300 francs. Mais je crois que c'est prenable quand même. Donc je crois que c'est à eux de voir comment faire effectivement pour que ces engagements-là soient respectés.
Non, on reste significatif. Ce qu'on doit noter aussi est que Olam n'a pas signé une convention de gestion avec le ministère de l'Agriculture, c'est avec l'État togolais. Et c'est eux qui ont la majorité des actions, 51%. Tu vois, c'est compliqué. Si on doit lui imposer des choses, là, ça veut dire qu'on va revenir sur la convention. C'est eux qui ont 51% des actions aujourd'hui.
Gérer notre
chose. Ah là, on revient sur la chasse.
Qu'on nous laisse gérer notre chose.
D'accord. Ok, oui, disait, c'est vrai que Jacques évoque un sujet très important en parlant même d'ailleurs de l'engagement alors ou la responsabilité du ministère de l'Agriculture dans cette situation, dans cette crise. Et oui, ces derniers temps, on a constaté quand même que au sein même d'ailleurs de la société, quand il y a peut-être une crise, on interpelle plus alors le chef de l'État. Est-ce que ça veut dire que au moins au niveau même d'ailleurs des ministères, il y a quelque chose qui a été failli?
Mais vous voulez quoi? Vous voulez que on n'interpelle pas le chef de l'État et que vous pensez qu'au Togo, les ministres sont assez puissants pour décider d'eux-mêmes et régler un certain nombre de problèmes? Mais ici, c'est ce à quoi vous attendez. Vous allez attendre encore plus longtemps, surtout avec la nouvelle constitution que vous avez. Un président du Conseil des ministres tout puissant qui décidera de tout. Mais les ministres seront là à côté et à chaque fois, vous serez en train de vous adresser encore au président du Conseil des ministres, version actuelle président de la République. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on nous a promis beaucoup plus de démocratie, gestion fluide et tout ce qu'on nous a dit, mais ça ne sera pas la réalité. On est dans un pays où le pouvoir est concentré entre les mains du chef de l'État. C'est une réalité. Ça se voit sur le terrain et ça se voit dans la gestion même du pays. Et donc, à partir du moment où il y a un problème fondamental qui se pose dans un secteur et le ministre n'a pas la carte pour décider, qui décide à la fin? Le ministre réfère à son patron.
Oui.
Son patron, peut-être, si on veut suivre vraiment la hiérarchie, ça va être dans le cas d'espèce le Premier ministre. Et après, le Premier ministre va adresser le dossier au chef de l'État qui décidera après coup et le ministre va venir rendre compte. Mais bon, ok, si on ne suit pas la procédure normale, vous savez qu'il y a des super ministres qui ont des relations privilégiées, toujours avec le chef. Les super ministres vont directement voir le boss et le boss décide. Et ils viendront rendre compte. Peut-être, je ne dis pas que c'est dans le cas d'espèce, si vous regardez mon regard. Donc,
Non, c'est lui qui est allé voir le chef de l'État, ce n'est pas le cotonculteur. Il est revenu rendre compte au cotonculteur.
Ils ont écrit.
Donc,
les cotonculteurs ont dit qu'ils
mais le chef de l'État ne les a pas rencontrés.
Donc, Pascal, ça va continuer à être notre réalité de tous les jours. Quand nous aurons des difficultés dans la plupart des secteurs du pays, les ministres ne pourront rien décider des statuts qu'ils ont actuellement ou qu'ils auront parce que le pouvoir est encore concentré, le pouvoir est encore resserré et c'est celui qui a la tête, c'est celui qui a les leviers, les manettes qui décidera de tout. Là, on parle de Ola à qui on a pratiquement donné le secteur. La filière coton, on a donné la filière coton et ils ont pris 51%. Je ne crois pas que le ministre de l'Agriculture ait pris cette décision. C'est quelqu'un qui a décidé de ce qu'on privatise la filière coton. Et donc, il faut toujours retourner vers celui-là. Ça va être la même chose dans la plupart des secteurs où s'il y a un problème qui se pose, il faut se référer au président de la République qui a pris des décisions majeures, soit de privatisation, soit de ce qui est... Et lorsque les problèmes vont se poser dans le secteur, il faut retourner à lui pour qu'il soit celui qui, peut-être avec ses experts, trouve les solutions pour ce problème. Et donc, si tu veux dire, donc s'il y a un problème au niveau de la presse, on va devoir se référer au président de la République. Peut-être que nous, on doit passer par un ministre de la communication ou peut-être on passe directement ici, là, on parle déjà.
D'accord, ça me donne une belle transition hein, pour parler politique. Pour parler politique, alors, Uriel, c'est vrai que le vendredi dernier, nous avons appris tous ensemble cela où l'Assemblée nationale a élu son bureau, bien sûr, pour les 3 ans, les 3 prochaines années. Et déjà, c'est Kodjo Adedie qui est maintenant le président de l'Assemblée nationale. Il y a le journal Le Correcteur qui est revenu sur le sujet aussi, hein, qui titre à la une alors ce matin, dans la gouvernance sans partage, unis s'assoit sur l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai que quand on prend tout le bureau de l'Assemblée nationale, on voit tout simplement que la couleur, c'est bien unir. Et il n'y a même pas alors un autre alors de l'opposition, hein, de l'opposition dans ce bureau, ou les membres alors du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous avez été au moins, vous avez été surpris par rapport même d'ailleurs à ce résultat, hein, ou à cette nomenclature du bureau exécutif?
Non, c'est vrai que pour faire une analyse, on ne répond pas par oui ou par non, il faut analyser. Mais j'ai dit non, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris. Vous voulez quoi? Que quelqu'un laisse sa place à l'autre? C'est une élection. Les 13 membres ont été élus. Vous êtes en train de voir les 108 députés du parti unir, élire un membre d'un autre parti politique. Moi, je n'ai pas été surpris, pas du tout. Je n'ai pas été du tout surpris. Je savais quand même que ce bureau... quel que soit ce que les gens vont dire, bon, unir ferait ceci ou cela, on trouvera toujours à parler. Donc, ils vont se dire non, ce n'est pas la peine, nous composons un bureau à 100% de notre parti et on fait fonctionner le pays. Aujourd'hui, nous avons l'ancien commissaire général de l'OTR qui est à la tête de cette Assemblée nationale. Bon, ils ont confiance en lui, ils ont cru en ses capacités, ils savent que il est capable de faire ceci, cela par rapport à la loi. Donc, il est à la tête. Et puis, ce qui est très intéressant, vous voyez, ces quatre ministres qui font partie, ces quatre ministres déjà qui font partie du bureau de l'Assemblée nationale, comme la Kokoroko qui devient troisième vice-président, Kassa Traoré qui devient premier vice-président. Nous avons aussi William Dossou d'Almeida qui est aussi dans le bureau. Donc, on comprend que beaucoup de choses vont nous surprendre. Mais sur la forme, la composition du bureau lui-même, moi, je n'ai pas été surpris. Parce que même si j'étais à leur place, les gens ont gagné des sièges, ils ont refusé d'aller siéger. Qu'est-ce que ce parti peut faire encore pour qu'on le félicite? Non, ce n'est plus la peine. Ils vont se dire non, faisons fonctionner le pays et pour faire fonctionner le pays, évitons les obstacles. Donc, soyons seuls. C'est mon avis, hein, c'est mon analyse. Et je pense que c'est bien cela. Bon, la question que moi je me suis posée, l'Assemblée nationale est en cours de fonctionnement comme ça. Bon, quatre ministres qui ne sont plus au poste, ça veut dire que très bientôt, nous aurons un nouveau gouvernement qui sera chapeauté par l'actuel chef de l'État. S'il y a un travail à faire au niveau des quatre ministères aujourd'hui, on avait dit qu'ils doivent assurer les affaires courantes. Bon, maintenant qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ça veut dire que karma, bientôt, on aura un nouvel exécutif et à sa tête quelqu'un et tout va s'accélérer, c'est ce que moi je me dis.
D'accord, Jacques, c'est vrai qu'il y a certains de l'opposition quand même qui siègent, hein, et puisque Uriel évoquait le fait qu'il y a certains qui ont refusé alors de siéger, il y a certains qui siègent déjà, mais est-ce qu'on ne peut pas composer avec ces gens-là qui siègent?
Oui, mais écoutez, si le parti majoritaire a refusé d'ouvrir les vannes pour que d'autres puissent avoir de l'eau. Vous voulez quoi?
Du carburant.
Il faut que les gens se contentent lorsqu'il va encore pleuvoir, c'est tout. Il a dit qu'il faudrait encore une prochaine élection pour que l'opposition puisse également avoir un nombre de députés pour pouvoir également avoir part à ce bureau. C'est vrai que on aurait aimé quand même. Ils sont combien? Je crois qu'ils sont trois.
Deux d'Adi, un de DMP. Voilà.
Et peut-être qu'ils pouvaient prendre un pour être peut-être troisième vice-président. Mais bon, ils n'ont pas voulu. Bon, ils savent. C'est-à-dire que, vous savez, le slogan de Unir, quand on gagne, on fait quoi?
On gouverne.
On gouverne. Donc, ça dit qu'ils ont gagné. Bon, laissez-les gouverner. Je crois que je ne pense même pas que l'opposition, les trois là, puisse se plaindre, parce que déjà, vous avez vu qu'ils n'ont même pas pu constituer, comment on appelle,
une coalition,
un groupe parlementaire. Donc, trois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas un groupe parlementaire, ils ne sont pas dans le bureau. Bon, attendons, peut-être que lorsque les commissions seront formées, ils puissent prendre quelques commissions. Je crois que Unir a gagné, Unir dit qu'ils vont gérer, Bon, laissez UNIR gérer sa chose. Et puis, l'essentiel est que ceux qui ont été élus au niveau de ce bureau, c'est à la tâche qu'on va reconnaître. C'est au pied du mur qu'on reconnaît un maçon. Je crois qu'on les a élus. Attendons de voir maintenant les tests qu'on va convoquer vers l'Assemblée nationale, les interpellations qui seront également au niveau des ministres qui seront interpellés, qu'est-ce qui va être fait. C'est en ça que nous pourrons juger. Mais pour le moment, il ne savait qu'en allant à ces élections, lorsque les résultats étaient proclamés et que la première session du droit a eu lieu, UNIR savait déjà qui allait être président, qui allait être premier vice-président. UNIR savait. C'est vrai que...
Donc tout était programmé.
Oui, mais c'est vrai que d'autres
avaient spéculé sur... Mais dans la tête d'une seule personne. Programmé dans la tête d'une seule personne.
C'est vrai que certains avaient spéculé sur certains noms. Mais finalement, on a vu que ce n'était pas le cas. Donc moi, je crois que, comme ils l'ont dit, ils ont gagné. Laissons-les gérer.
On dirait que c'est déjà la 5e République qui prend corps.
Mais qu'est-ce que tu penses?
Constitutionnaliste.
Qu'est-ce que tu penses? Les gens n'ont pas fait tout ce qu'ils ont eu à faire. Tous les efforts qu'ils ont eu à déployer autour de ce test-là pour que cette constitution ne s'applique pas. Vous avez vu des gens essayer de poser un problème de droit et de normes avec au niveau de la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats des élections législatives suivant les dispositions de la Constitution de 1992. Mais cette même Cour constitutionnelle vient de donner le quitus au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, règlement intérieur taillé suivant la nouvelle Constitution. Donc, si la Cour donne quitus à ce règlement, et c'est sur la base de ce règlement intérieur que l'élection du bureau de l'Assemblée nationale a été faite. Et donc, à partir de ce moment, comprenez que les gens ont déjà déclenché la 5e République qui est ainsi en marche. Et donc, oui, comme vous avez compris, et les uns les autres l'ont dit, il n'y a aucune surprise dans la composition de ce bureau, même si à un moment donné, les uns et les autres auraient pu penser que, bon, ok, pour faire un peu plus de diversité ou un peu plus d'ouverture...
Avec 3 sièges.
Oui, mais bon, voilà, ne serait-ce que donner quelque chose de vice-président, ou ne serait-ce 6e ou 7e, ou créer, voilà, quelque chose de vice-président, ne serait-ce que pour le doyen d'âge.
Ça aurait favorisé quand même le jeu démocratique.
Avec 3 sièges.
Peut-être pour la diversité, peut-être pour la présentation même aux yeux de l'opinion nationale et internationale, ça pourrait donner au moins quelque chose, une couleur. Entre une couleur qui s'incruste quelque part dans la couleur bleue du bureau. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et je crois fondamentalement que quand on va parler, quand on va inviter l'Assemblée nationale, les responsables qui vont se présenter, ça va être les membres du bureau. Donc, qu'on donne une commission à quelqu'un de l'opposition après, ça ne représenterait pas véritablement la diversité qu'on aurait espéré voir dans la composition du bureau. Après, je ne sais pas, la politique, ça reste la politique. Je ne sais pas si on a proposé quelque chose aux opposants qui siègent dans la composition du bureau et qu'ils aient pu refuser. Mais comme quelqu'un le dit, on ne sait pas si la composition du bureau est venue de quelque part. Parce que peut-être Jacques disait que... dès l'ouverture de la session des droits, UNIR savait qui allait être le président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas possible pour les mêmes. Même vendredi matin, là, c'est très compliqué pour même des membres députés UNIR à l'Assemblée, là, de savoir qui serait le président. Après, les choses ont été décidées. Et ont été décidées après concertation à la toute dernière minute. Et vous voyez d'ailleurs que le président de l'Assemblée nationale élu n'était même pas au pays et n'avait pas donc participé, n'avait pas pu présider la session comme cela est prévu dans les tests, parce que juste après l'élection, il devrait prendre le perchoir. Il n'avait pas pu le faire parce qu'il ne savait rien lui enfin, je suppose, et il n'était pas non plus au pays. Donc, les choses ont été faites, le parti a décidé, ou le chef du parti, puisque là, on est dans la 5e République et on parle du chef du parti majoritaire. Donc, je suppose que c'est le chef du parti majoritaire qui a décidé. Et puisqu'il a décidé, il a la majorité, il a décidé ce qu'il a décidé qui a été fait.
D'accord. Il y a un auditeur, un fidèle d'ailleurs, qui nous pose la question de savoir, déjà, quand on prend aujourd'hui, on sait que l'ancienne législature avait promis qu'il y aura même d'ailleurs le rapport de l'enquête alors sur Covid, puisqu'on se souvient de la Cour, la Cour des comptes, quand même, qui a fait objet même d'ailleurs d'une enquête au niveau de l'Assemblée nationale. Mais finalement, nous n'avons pas eu les résultats. Est-ce qu'avec cette législature, on pourra avoir les résultats?
Non, on a eu des résultats. Quels résultats encore? Les résultats sont revenus. Et les résultats stipulaient que tout était bien géré. Oui. Il y avait peut-être que vous vous trompez. Les résultats sont arrivés. Peut-être que ça n'a pas été à votre goût.
Au niveau de l'Assemblée nationale?
Au niveau de l'Assemblée nationale.
Ah bon?
Oui, oui. Les résultats sont bien arrivés. Je ne crois pas que ces gens-là puissent revenir sur le sujet, à moins que, bon, par des formes extraordinaires, ça puisse revenir. Sinon, pour moi, c'est des sujets classés ainsi. Mmh. Je ne dis pas que c'est mon souhait, mais c'est des sujets, à mon sens, et à la lecture de l'homme objectif, ce sont des sujets qui sont déjà classés. Mais bon. Ce qu'il en sera, on verra bien.
On verra bien, d'accord. Oui. On verra bien. Il est déjà midi. Nous allons maintenant donner aussi la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne ou à rentrer dans ce débat avec nous. 22 21 33 114 86 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez alors nous contacter. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 3314, premier auditeur que nous insérons. Allô?
Oui, bonjour mon frère.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, oui, chez vous.
Oh, ça va aussi, votre nom c'est...
Benoît Dagoué.
Ah, Benoît Dagoué. Benoît, bon, allez-y.
Moi, je salue le plateau. Mm. Je voudrais dire, arrêter de dire que l'UNIR a gagné. L'UNIR n'a pas gagné. C'est l'opposition qui a joué. L'opposition a joué. Écoutez, c'est l'UNIR, ils disent que l'UNIR les a volés. Est-ce que c'est l'UNIR aussi qui les empêche de composer un groupe parlementaire? Au moment où vous avez donné, au Barato Unis, il faut avoir 5. Vous avez 5. Vous êtes les deux. Écoutez, si moi je suis impatient, je suis impatient de voir les résultats des élections municipales en 2025. Et je termine par là. Même si je suis le président de Pornia Tegbela, je vais organiser les élections municipales le plus tôt possible. Et les opposants, ils vont aller rester à la maison. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi, Benoît. 22 21 33 114 91 36 63 115. Autre auditeur, allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va, c'est Ali.
Ali.
Retenons ceci en tête. L'UNI n'a pas quelque chose à lui à gérer. Jacques-Coutier vient de le dire, laissons l'UNI à gérer sa chose. Rien. C'est le Togo, notre bien commun, que l'UNI s'amuse à détruire avec Ponya Tinguay. L'ami qui vient de quitter. Et comprenons que ce n'est pas un petit jeu entre l'UNI, port et opposition. C'est le sort du Togo qui est en train de jouer. Et Madame Adamago a demandé lors du règlement intérieur que le groupe parlementaire d'opposition soit composé de 3. Comme ça, on rend conformément le règlement intérieur là, à ça. Et l'UNI a refusé. Et c'est l'extrémisme politique qui est encore visible. Ici, il y a quelqu'un qui est vraiment une forme de terreur au Togo, c'est l'UNI avec Ponya Tinguay, qui fait tout pour pouvoir dire que c'est à eux. C'est faux. C'est dangereux pour nous, tous ceux qui sont sur le territoire togolais. Nous devons le dire. La Cour constitutionnelle vient d'avaliser encore le coup d'État constitutionnel. Et le procureur de la République est là. La Commission nationale des droits de l'homme est là. celle de comment si relation entre l'État et les institutions est là. Visiblement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ériger le mensonge, le pôle en règlement pour pouvoir diriger un pays. Uriel dit que les résultats de Covid sont venus. Dans quel document? Soyons directs. On ne peut pas être négationniste à ce point. Nous, on a vécu l'événement. Dans quel document? Et en dehors de ça, pourquoi doit-on penser que le Togo appartient à un clan? Jamais.
D'accord.
C'est ce qu'on est en train de voir.
Okay.
C'est très dangereux et nuisible pour nous.
Merci beaucoup, Ali, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, Nestor, depuis Agoué.
Oui.
Allez-y.
Oui, je veux remercier les analystes pertinents, les journalistes sur les différents thèmes. Je salue les dirigeants du pays, je salue l'opposition. Obama a dit que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Merci, Canal FM.
D'accord, merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. 22-21-33-114. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va. C'est M. Mauto à l'appareil.
Ah, M. Mauto, allez-y.
Salut, le plateau.
Salut.
Premièrement, je veux dire que quelqu'un a dit qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas, il ne peut pas gagner de l'élection au Togo. Quand c'est une élection au Togo, ils ont gagné.
Monsieur Mauto.
Je voulais poser la question à
Oui, M. Mauto. Oui, veillez aussi un peu la voix, puisque nous avons un peu de difficulté à vous écouter.
Je veux dire, et on va voir ce qui se passe à la table maintenant au Togo. On demande dans quel pays on peut voir ça dans le monde entier.
Merci beaucoup. Vraiment, nous avons eu des difficultés à vous écouter, M. Mauto. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22 21 33 114. 91 36 63 75.
Bonjour.
Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Ça vous l'émission?
Oui, oui. Votre nom, c'est?
C'est Mawena.
Mawena, vous nous appelez de quel quartier?
Adjidogome.
Adjidogome, allez-y.
Adjidogome.
Oui, allez-y.
Ok, je salue le plateau. Oui, je salue le plateau.
Oui, oui, allez-y, monsieur Mawena.
Oui, moi j'aimerais savoir, je voulais demander, est-ce que l'UNI a besoin des oppositions avant de diriger ce pays? Lui, il n'a pas besoin de l'opposition avant de diriger le pays, avant de faire quelque chose dans ce pays. Laissez l'opposition tranquille, ceux qui tirent sur l'opposition, moi je ne le comprends pas. Même si on organise les initiatives, la population sait ce qui se passe au pays, dans ce pays. La population ne peut jamais condamner les oppositions, l'opposition. Sur ce qui se passe dans ce pays-là, la population est au courant. Lui, il a gagné, non, il n'a qu'à diriger, il n'a qu'à faire ce qu'il faut pour le pays. Laissez l'opposition tranquille. Ceux qui veulent aller siéger, tant pis, ceux qui ne veulent pas aller siéger aussi, bon, ça va être le problème. La population sait ce qui se passe. Nous, on ne peut jamais blâmer l'opposition dans cette situation. On sait ce qui se passe. Donc je vous en prie, laissez l'opposition tranquille. Laissez Vini gagner. Vini a gagné la carte du pays, parce que la population veut et qu'on soit tranquille.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, M. Mawena, pour votre intervention. 22 21 314 91 36 315. Allô?
Oui, c'est maintenant que Mauto qui revient.
Oui, M. Mauto.
Maintenant, vous me saluez.
Oui, oui, allez-y maintenant.
Okay, c'est vrai bien. Oui, il n'a pas gagné l'élection. C'est pas parce qu'il ne venait pas. On ne peut pas appeler ça l'élection. Et je posais la question.
On a encore du mal à vous écouter, M. Mauto. Et peut-être que vous. Oui.
C'est bon. Je vous dis, hein. Nous
allons passer à un autre auditeur parce que nous avons des difficultés à écouter M. Mauto. Je ne sais pas si c'est déjà chez lui. Hein. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, madame Essie.
Je veux dire bonjour à mon frère Abdi Alpha. Hein, on dirait que je l'oublie un peu. Je lui dis bonjour et à tout le monde.
D'accord, merci beaucoup, madame Essie.
ça c'est tout le monde, quoi. Mmh. Et même à mon frère Modeste. Voilà. Bon, maintenant, la bagarre se trouve où, là? Vraiment, pourquoi on nous fatigue tant? Pourquoi le régime prend le plaisir de nous fatiguer, de nous... je sais pas. Je comprends pas. On a dit un mandat de 5 ans, non? Pourquoi il nous fatigue tant? Et il y avait eu plus d'un million de manifestants dans les rues à un moment donné, en 2018, je crois. Et ils ont réussi par force de citer les 100% des députés en 2018. C'est l'habitude de la maison. Et là, ils nous ont changé carrément la constitution. Ils n'ont pas le droit, ils n'en ont pas le droit parce que le mandat est fini depuis une cinquantaine d'années, si on peut le dire. Et même avec la PG, c'est fini depuis 2015. Et maintenant, ils ont changé le truc. Du coup, ils ont organisé une élection, machin, à la va-vite. Et puis, 100% encore. Hein. Et puis, les gens se permettent de critiquer l'opposition dans ce pays. Ils se battent contre tous ces trucs-là. Et puis, je vais rappeler aussi qu'il y avait eu... ils octroient les points. Hein, ils octroient les points. Ils avaient octroyé 27 députés à l'ANC un mois donné. Non. Ils en ont viré 9 dedans. Jamais vu dans le monde entier. Et parler de ça, hein, parler de ça, un député ou cinq, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce truc-là? Moi, le truc, c'est qu'ils ont dépassé les mandats. D'abord, ils doivent commencer par nous rembourser le surplus de leur salaire. Hein, qu'ils remboursent, pour qu'on soit bien, quoi. Et qu'ils commencent par ça, nous rembourser le surplus des salaires qu'ils ont pris. Hein. Et puis c'est tout de la retrahison. Merci.
Merci beaucoup, madame. Merci. D'accord, merci pour votre intervention. 22 21 3314 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Niamavo.
C'est Niamavo, monsieur.
Allez-y.
Oui, les membres de l'Union, même quand je les prends en offre, ils te disent en même temps que en politique, c'est pas un plus un égal deux. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. C'est chez eux, 1 plus 1 égale 1. Donc, parler des accidents. Moi, maintenant, souvent, je vais en moto parce que les départements, même, il faut chercher des rigoles. Mais si tu es dans la voiture, comment tu vas faire? Chacun se protège au Togo. On a promis de doubler la voie. On ne double pas. Mais raccommoder la voie aussi, on n'arrive pas à faire. C'est des trous partout. Comment vous voulez avoir des accidents chaque fois? Hein? Donc on déplore ceux qui meurent chaque fois sur la route. On ne change pas. Et concernant, comment l'appelle-t-on, les cotonculteurs, une fois quelqu'un disait que les procès d'université réclament trop. Mais ce n'est pas à eux d'aller dire aux paysans que ça ne va pas pour qu'ils se soulèvent. Oui. Chaque entité souffre. Donc à chacun de faire ses réclamations. Et chacun sait qu'avec le responsable, si on ne le trompe pas pour prendre quelques millions quelque part, c'est pour le changer.
Il nous a quitté, monsieur Niamavo. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi 22 21 33 114 91 36 63 115. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour?
Bonjour, je vais participer à l'émission.
Oui, vous y êtes. Votre nom, c'est?
Youssoufou de Sokodé.
Pardon?
Youssoufou
de Sokodé. Allez-y.
Oui. Oui.
Oui, Youssoufou, je vous écoute. Allez-y.
Pardon. D'abord, avant de parler, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites.
Oui.
Ce que moi, je veux parler concernant le problème de la vie. Ce qui m'a intéressé dans votre parole, c'est que le partage de la responsabilité. Là. Parce que, au Togo, actuellement, là où moi je suis dans un village de Sokodé, tout ce que moi j'ai vécu dans le monde est que, surtout au Togo, le problème est responsable dans les familles,
dans les quartiers, dans les villages, ils ne prennent pas leur responsabilité en main. Les enfants, ils laissent les enfants. Quand ils arrivent dans un milieu, on regarde ce qu'ils font. C'est pour manger ce que le chef peut profiter de toi. C'est tout. Mais tu veux chercher à résoudre un problème qui va arranger le village et le Togo en général. Et poursuivi en même temps. Les parents, ils sont, c'est-à-dire, dans les foyers, dans les quartiers, ce sont les défenseurs de l'injustice ici qui sont nombreux. Quand tu arrives, tu es un petit intellectuel. Il faut que qu'on dise que tu es enseignant, tu es tel, avant de te donner le respect. Tu n'as pas, tu n'as pas accès à manger au chef de quartier, de village ou un père de famille. Quand tu veux parler de l'éducation, tu es aussi en même temps. C'est l'un des plus grands problèmes de l'Afrique en général et le Togo en bas.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Issoufou, puisque notre temps est déjà avancé. Merci de nous avoir appelé depuis Sokodé. Ça fait tellement plaisir de vous écouter. Ça nous démontre combien de fois vous êtes fidèle aussi à l'intérieur du pays et que vous nous suivez fidèlement. Alors, dans cette émission Club de la Presse, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un tour de table et clôturer l'émission. Uriel, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur l'actualité telle que débattue ici et où nous l'avons débattue au Club de la Presse. Votre réaction?
Ma réaction, c'est principalement sur Mme Issi, qui n'a jamais changé de position, mais elle s'est beaucoup trompée sur les élections législatives de 2018. Elle dit que UNIR a gagné 100%. Non, ce n'est pas vrai. UNIR n'a pas siégé seul à l'Assemblée nationale à la suite des élections législatives de 2018. Non, l'ENET a siégé, l'UFC a siégé. Le PDP de Bassaby Kagbara a siégé. Ce n'est pas tout ce qu'on dit. Il faut quand même que les auditeurs trouvent que nous sommes responsables dans ce que nous sommes en train de dire. Ces partis que nous venons de citer ne sont pas des partis qui composent avec UNIR, c'est d'autres partis politiques. La preuve, c'est qu'actuellement, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. On ne dira pas qu'ils sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, juste attirer son attention sur le fait qu'elle est une fidèle des fidèles de cette émission, mais quand même qu'elle revoie tout ce qu'elle veut dire avant de le prononcer.
D'accord. Jacques?
Non, je voulais revenir sur la préoccupation de M. Nyamavo. Quand il invitait le gouvernement à essayer de commenter un peu les routes, c'est très important parce que vous voyez les indications qu'on a données sur l'axe Thiévier Atakpamé, l'axe Atakpamé Aouda et l'axe disons Aouda vers Sokodé et autres. Je crois que il faudrait que l'État, surtout le ministère des Transports et des travaux publics plutôt, puisse revoir comment, et ça faire je crois, non, ça faire dans l'entretien des routes, voir comment effectivement il faut essayer de ne serait-ce que commenter les trous, parce que quand on parle d'accident, c'est également les nids d'accident également au niveau effectivement de ces routes quoi. Je suis d'accord avec Nyamavo que l'État puisse voir comment effectivement commenter ces trous là.
D'accord, merci Jacques. Et Didier?
Oui, je pense que deux auditeurs ont dit qu'il n'a pas sa chose à gérer, que c'est le Togo et à nous tous. Et je pense peut-être que il ne vaut pas la peine de faire le procès aux journalistes. C'est une façon d'analyser. Et des gens dans l'analyse peuvent avoir manqué de mots des fois en disant un certain nombre de choses. Nous sommes tous d'accord que le Togo appartient à nous tous. Personne n'a jamais dit que le Togo appartient à UNIR ou aux membres de UNIR. Donc le Togo est à nous tous. Et le point sur lequel on peut être d'accord avec ces auditeurs-là, c'est que oui, même s'ils n'ont pas de l'opposition, ils peuvent faire du bien aux Togolais. Gérer tellement bien et faire du bien aux Togolais, faire rêver les Togolais, de façon à ce que les Togolais oublient même qui est une opposition. Donc c'est à cela que nous pouvons également appeler les dirigeants. C'est comme on dit par exemple sur la question des routes, l'inondation, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça reste une préoccupation de tous les jours, les délestages et les autres choses. C'est des choses pour lesquelles on n'a pas naturellement besoin de l'opposition pour régler ces problèmes. Donc l'essentiel, ce sera de régler ces problèmes pour mettre le Togolais à l'aise.
D'accord. Je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Ma note sera pour une première fois que je donne une note 9. sur 10 je veux dire aux acteurs de l'éducation à tous les niveaux qui ont eu à conduire l'année scolaire de façon assez paisible et pérenne. Aujourd'hui, on a les résultats du bac 1 qui naturellement clôture avec les enseignements primaires, secondaires et techniques. Après, c'est vrai qu'il y a le bac. Le bac, c'est un examen qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, un autre degré. Donc, félicitations à tous les acteurs qui ont quand même permis à ce que l'année scolaire 2023-2024 soit une année réussie.
Voilà, résultat de bac 1, pratiquement
71,73%.
D'accord, oui. Et Uriel, votre note de fin d'émission.
Alors, ce n'est pas de mon habitude, mais... j'accorde
une note objective,
mais une note 4 sur 10 au ministère des enseignements primaires secondaires pour avoir maintenu jusqu'ici l'examen du bac 1. Je souhaiterais et j'ai toujours souhaité que cet examen revienne à une composition pour que la classe de première soit une classe de passage, parce que on ne vous demandera jamais le diplôme du bac 1 pour passer un concours. Vous le savez.
Merci beaucoup, Uriel.
Oui, Jacques. Je n'ai pas de note, tout juste inviter nos compatriotes. Et nous sommes en train d'assister à des phénomènes de maladie, surtout le palu qui est accompagné souvent des infections. Actuellement, c'est ça qui régente notre capitale. Il faudrait que les uns et les autres puissent prendre soin et faire des analyses et voir comment vraiment se traiter. Sinon, quand vous voyez la plupart des Togolais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, c'est le palu, après le palu, on dit non qu'il y a infection.
Merci beaucoup Jacques. Merci Uriel d'être passé dans cette émission. Didier, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous dans cette émission. Merci à Thomas Ité et Kossi Datevi qui a assuré la mise en onde de cette émission. Et Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.